Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Et aujourd'hui, puisque nous avons terminé la semaine dernière par faire notre voyage initiatique au centre de l'ordinaire de la messe, en voyant le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus, aujourd'hui je voulais partir dans un sujet totalement différent, un peu iconoclaste, dans la mesure où les plus puristes pourront dire que ce n'est pas 100% de la liturgie, mais laissez-moi contextualiser les choses et vous verrez bien que, comme d'habitude, on peut trouver une justification liturgique à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je voulais vous parler, on va peut-être le personnifier, mais d'une personne qu'on a un petit peu laissé de côté depuis qu'on a commencé à discuter cette année. C'est pourtant une personne fort respectable, fort vénérable, une très vieille personne qui a parfois plusieurs siècles. Je veux parler de l'orgue. Or, quand on est chrétien, quand on va dans une église, effectivement, il y a un rapport immédiat entre une église et son orgue, et une église et l'assemblée, puisque l'orgue joue un rôle totalement éminent dans la musique liturgique, et c'est elle, bien entendu, c'est cette musique qui, aujourd'hui, est souvent encore au cœur de nos offices. Donc l'orgue, c'est tout à fait particulier parce que, vous voyez, il y a cette relation et qui existe entre la chrétienté et le catholicisme et cet instrument. C'est tout à fait incroyable. Pourtant, l'orgue, c'est un instrument extrêmement vieux. On l'a connu dans les amphithéâtres grecs et romains. Bon, à l'époque, c'était pas l'orgue moderne tel qu'on le connaissait, hein. Il s'agissait, par exemple, d'un hydrôle qui fonctionnait avec la pression de l'eau et le son était projeté dans les tuyaux. Mais vous avez quand même ce même système avec des tuyaux et qui pouvaient se jouer avec un clavier. Et peu à peu, cet instrument est devenu de plus en plus important. D'abord, c'était un petit positif qui était portatif, que l'on pouvait transporter sur des tables. Et ensuite, bien entendu, les meubles sont devenus de plus en plus importants. On a multiplié les meubles jusqu'à en faire des instruments parfois colossaux. En France, nous en avons des extraordinaires, ainsi qu'en Espagne, en Italie, au Portugal, en Angleterre, ou encore dans les pays de l'Est, en Allemagne. Et puis voilà, vous avez des chefs-d'œuvre, tant sur le point de vue du son que sur le point de vue de l'architecture. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le seul instrument au monde à pouvoir être classé monument historique tant pour sa partie instrumentale, c'est-à-dire sa sonorité, que sur le meuble en tant que tel. Donc effectivement, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire avec cet instrument. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas, on peut le qualifier de vieux, on peut le qualifier effectivement de trop catho, parce qu'effectivement on se dit bon que c'est un instrument d'église, donc rien n'est plus faux. Je vous ai dit qu'on le trouvait dans les amphithéâtres, on l'a aussi trouvé dans des cinémas, dans des salles de concert, voire même dans des stades, aux États-Unis vous avez ça, ou même encore des grands magasins. Donc finalement, l'orgue aujourd'hui est finalement assez démocratique. Mais il est vrai qu'il a une dimension tout à fait liturgique, et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Pourquoi cette dimension tout à fait liturgique? Cela a été rappelé notamment dans les textes de Vatican II, c'est l'instrument propre à la liturgie. Alors pourquoi ce favoritisme alors qu'il existe des merveilles sur violoncelle, sur piano ou d'autres instruments? Eh bien tout simplement parce que il est le propre pour accompagner et soutenir la prière des fidèles, ça c'est selon les textes, et en effet, de par la multiplicité de ses sonorités, son emplacement dans l'église, eh bien l'orgue a cette capacité totalement unique de soutenir le chant de l'assemblée et en plus de l'enrichir, notamment par le biais des différentes harmonies que pourront utiliser les organistes, mais également de la sonorité de l'orgue. Si on prend un petit orgue, vous voyez, bien sûr les sonorités sont plus compactes et on peut moins faire des grandes choses, des grandes œuvres, mais vous avez des instruments qui sont beaucoup plus importants, avec parfois plus de 100 sonorités différentes qui peuvent là aller beaucoup plus loin. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de faire un voyage dans un style musical bien particulier qui, lui, n'est pas liturgique, mais encore que, vous pourrez me dire, il s'agit de la toccata. Alors la toccata, c'est tout à fait particulier, c'est un style musical qui, en fait, n'a pas véritablement de définition. Ça s'est forgé, en fait, au fil des années. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de commencer par un type de toccata assez particulier. Alors tout d'abord en essayant de définir ce que le compositeur pouvait voir par là. Une toccata, c'était un style qui se voulait extrêmement libre, presque comme s'il s'agissait d'une improvisation, finalement. Et alors ça, on peut le voir dès le XVIe siècle, il y a des toccatas qui sont attestées. Alors elles ne sont pas d'ailleurs uniquement dévolues à l'orgue. Vous avez des toccatas qui existent pour divers types d'instruments, des trompettes, le luth, etc. Bon, le clavecin. Et là, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est la toccata à l'orgue. Et une toccata bien particulière, avec un compositeur bien particulier, il s'agit d'un immense maître de la musique italienne qui s'appelle Frescobaldi. Frescobaldi a été un immense claveciniste et organiste italien. Donc sa carrière s'est étalée notamment entre... Enfin, il a été beaucoup à Rome. En fait, il a été titulaire du grand orgue de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc vous voyez, excusez du peu. Et c'est quelqu'un qui, véritablement, jusqu'à sa mort, à 59 ans, en 1643, a fait état du plus grand génie musical que l'on pouvait avoir en Italie à cette période-là. Il a eu une influence considérable en Europe, notamment en Allemagne, parce qu'il avait beaucoup d'élèves qui venaient apprendre auprès de lui, et c'est lui qui a mis en place quelques-unes des toccatas les plus célèbres. Celle que je vais vous faire découvrir à présent, c'est une de ses toccatas les plus célèbres. Alors je vous laisse tout de suite avec Frescobaldi, et nous allons écouter ensemble sa toccata cromatica per l'elevazione.
Thank you.
Alors oui, quand on parle de toccata, dans l'imaginaire collectif, on ne s'imagine absolument pas ce genre de pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, on est dans quelque chose de très, encore une fois, longitudinal, très horizontal, très peu de relief, encore que le relief existe. Si vous avez fait attention au nom que je vous ai donné, il s'agit d'une toccata per l'elevazione, toccata chromatica. Ça veut dire qu'en fait, on va jouer sur les sonorités, et en fait, à partir du moment où elle se jouait à l'élévation, alors, il existait à l'époque plusieurs interventions de l'orgue pendant la messe, où l'orgue seul accompagnait un moment précis de la messe. L'élévazione, c'était ce moment où on présentait le pain et le vin, le prêtre levait le pain et le vin, et à ce moment-là, il y avait une pièce d'orgue. Et là, en l'occurrence, cette toccata per l'elevazione. Et là, chromatica, ça veut dire que vous avez de manière chromatique, donc en utilisant les tons et les demi-tons, une élévation qui se fait, qui est progressive, etc. Une sorte de mouvement, et finalement, même si la musique peut paraître dans un premier temps assez placide, alors en fait, elle n'est pas placide, elle est tout à fait intérieure, puisque cette elevazione, c'est ce mouvement ascendant de la chair, donc du pain incarné, vers le ciel, donc il y a tout ce mystère de l'incarnation, donc le mouvement chromatique vient bien s'inscrire dans cette idée d'abaissement et puis de relèvement, et puis il y a d'un autre côté, voilà, cette espèce d'adéquation entre le moment précis qu'il y a dans la messe, avec ce moment très solennel, qui est ici qui est souligné par cette toccata, donc qui est en fait là un support pour la prière des fidèles. Donc effectivement, on peut se dire au début que la toccata n'est pas quelque chose de totalement voué à la liturgie, Frescobaldi, dans cet exercice particulier-là, pour l'élévation, on a fait un morceau liturgique. Alors, il existe d'autres toccatas qu'a écrit Frescobaldi. En fait, Frescobaldi en a écrit énormément. Vraiment, ça a été le maître du genre. Et même après lui, en fait, finalement, ça a un petit peu périclité. Bon, sauf en Allemagne où d'autres maîtres là ont pu s'exprimer. Et finalement, il a fallu attendre le 19e siècle pour avoir d'autres toccatas. Mais ça fera l'objet d'un autre numéro de Point d'Orgue. Là, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment cette espèce de toccata qu'on attend dans un premier temps. Donc je vous disais que c'était une musique qui était inspirée comme une improvisation. Donc là, effectivement, vous avez quelque chose de très doux. Vous avez une mélodie chromatique qui utilise effectivement ces mouvements ascendants et descendants, symbolisant ce moment particulier de la messe. Mais vous avez voilà, toujours cette espèce d'écriture qui aurait pu être improvisée, mais qui reste néanmoins extrêmement mélodique. Maintenant que nous avons parlé de ce volet-là de la toccata, qui est peut-être un petit peu le volet originel, entre vraiment dans ce début de baroque, il y a un autre sens qui existe quand on parle de toccata. Toccata, en italien, ça veut dire « toucher ». Et alors là, la façon de pouvoir appréhender ce type de morceau est tout à fait différent, c'est-à-dire que là, on va se concentrer sur le toucher, véritablement, de la personne au clavier, et en l'occurrence là de l'orgue, et ça va donner quelque chose de tout à fait différent. Là, la toccata va être vue comme une pièce extrêmement virtuose, comme si le toucher devait être le plus léger possible. Et c'est là où on pense que le mot toccata a vraiment toute sa splendeur. Alors, le style reste assez libre, c'est-à-dire que la façon dont on peut écrire le morceau reste assez libre, mais il y a une idée de virtuosité qui existe, et qui va en adéquation avec ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que l'orgue a une palette de sonorités tout à fait ample. Et quand on parle de toccata, souvent, non seulement il est question d'une forme de virtuosité avec une rapidité d'exécution qui se fait, et en même temps un jeu assez brillant de l'orgue, et qui fait que voilà, on est face à une pièce très virtuose, très presque démonstrative. Et c'est là où on peut s'éloigner peut-être un petit peu de la liturgie, mais pas tant que cela. Finalement, pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de pouvoir envisager ce type de pièce, par exemple, à la sortie d'un office, ce qui était tout en fait envisageable à une certaine époque, et ce qui aujourd'hui peut encore une fois totalement s'envisager. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de découvrir ou de redécouvrir une autre toccata. Il s'agit de la toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est un immense poncif. Certes, c'est le hit des hits des toccatas pour orgue. mais finalement on ne s'en lasse jamais. Alors la toccata en ré mineur, elle est suivie d'une fugue, là aussi extrêmement réussie, et je ne résiste pas à l'envie de vous la faire écouter, notamment dans une version très particulière, celle de Ton Koopman. Pourquoi ? Là c'est tout à fait personnel, parce que quand j'étais petit, j'avais 3-4 ans, eh bien c'est le disque et la musique qui m'a donné envie de faire de la musique. Donc je tenais vraiment à vous faire partager non seulement cette toccata, mais en plus cette interprétation absolument magistrale du maître Ton Koopman, qui la joue de manière assez spectaculaire et assez démonstrative. Donc, je vais m'effacer au profit du génie de Jean-Sébastien Bach, et tout de suite, nous allons retrouver la toccata et fugue en ré mineur, interprétée par donc Ton Koopman.
Thank you.
Merci à Bach pour ce morceau extraordinaire qui est aujourd'hui bien sûr rentré dans la postérité la plus absolue, et quand on parle de toccata, évidemment, on s'attend à entendre ce chef-d'œuvre-ci. Bien entendu, nous allons continuer ce voyage dans les différentes toccatas. On va faire un bond de quelques siècles à partir de la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous invite à prendre connaissance d'un événement pour nos amis toulousains. Je vais diriger un concert à la Chapelle des Carmélites le samedi 21 octobre prochain, avec au programme de très belles choses de la musique française, notamment des extraits du Requiem de Forêt. Donc je vous invite à venir si vous êtes disponible. C'est en entrée libre, donc bien entendu profitez de la belle musique liturgique, car il y a encore de belles choses à entendre. Chers amis auditeurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales, notamment avec les toccatas pour orgue.